Chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire, bienvenue à Radio Courtoisie. Bonjour Sophie Mageran. Merci d'être de nouveau avec nous. Comme je l'ai signalé la semaine dernière, nous avons préenregistré ces deux émissions, un itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints de Terre Sainte, avec Sophie Mageran, guide conférencier, et nous vous proposons donc de marcher, de pèleriner, de découvrir selon où vous en êtes et quel est votre rapport avec la foi. Mais je pense, Sophie, vous ne me contredirez pas que quelle que soit la façon avec laquelle on vient, quel que soit ce que l'on vient chercher en Terre Sainte, c'est un voyage ou un pèlerinage ou un itinéraire qui ne laisse jamais indifférent.
Ah oui, je crois qu'on peut, on est tous touchés, qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas par les lieux. Sinon on serait de marbre en réalité. Mais oui, on est très touchés. Et pour ceux qui ont la foi, je crois que cela permet de faire des bonds en avant, de se rendre compte aussi de certaines évidences, me semble-t-il. Moi-même, la première fois que je suis allée en Terre Sainte, c'était en 2012. J'étais avec un groupe assez conséquent, avec plus de 50 personnes, deux prêtres. Une fois arrivé au Saint-Sépulcre, l'un des deux prêtres, qui connaissait très très bien la Terre Sainte et les lieux, m'a dit: Sophie, laissez le groupe et venez avec moi. Et il m'a fait une sorte de visite privée, si l'on veut, du Saint-Sépulcre. Dans ce Saint-Sépulcre où il y avait toujours énormément de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de foule, de piétinement, etc. J'ai le souvenir d'avoir été comme coupée et isolée du monde et seule, ce qui n'était pas le cas. Et avec ce prêtre qui me transportait de lieu en lieu, du lieu du Golgotha au lieu de l'ensevelissement, du sépulcre à proprement parler, et puis du lieu de la résurrection. Il m'a dit, voyez, là, c'est l'endroit, c'est le lieu où le Christ était apparu à Marie-Madeleine. Et là, ça m'a fait quelque chose. Voilà,
oui, bien sûr.
Je ne sais pas dire quoi, mais ça m'a marqué, et je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Et dès que je retournais au Saint-Sépulcre, je me rappelais, me remémorais très précisément tout ce que ce prêtre avait eu la bonté de me dire en privé, finalement, et de me montrer dans cette basilique qui ressemble plus à un hall de gare qu'à autre chose en temps habituel, hein, avec beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Encore une fois, on a du mal à se recueillir, et ça fait partie du pèlerinage. On aimerait avoir les lieux très calmes et pour soi, et ce n'est pas le cas. Il faut savoir faire finalement le silence intérieur, et c'est ce qui est sans doute le plus difficile.
Alors nous reviendrons évidemment sur le Saint-Sépulcre, parce que l'un des points compliqués pour aborder le Saint-Sépulcre, c'est son organisation. Et donc au début, comme en plus on rentre par le côté, on ne comprend pas trop où on est, mais c'est une église, je vous assure. Et une fois qu'on a compris les choses, c'est clair. Mais c'est une église qui ouvre quand même tous les matins à 5h30. Donc on peut s'asseoir comme si on était Marie-Madeleine et y rester avant l'afflux des touristes. Mais nous avions laissé nos auditeurs en Galilée, nous les avions laissés à Cana après le premier miracle, et nous leur avions dit que nous allions descendre sur Capharnaüm, qui est une des villes de cette... Il y a plein de villes dont les noms résonnent, et je vais vous laisser en donner certains, Sophie. Je voudrais juste signaler à nos auditeurs que je leur ai proposé dans la première partie de cette émission divers Stabat Mater. Ils ont entendu celui de Rossini, enfin des extraits évidemment, Pergolèse, Vivaldi, Poulenc, et là ils viennent d'entendre justement le Stabat Mater de Poulenc en ouverture de notre deuxième partie d'émission. Alors Sophie, autour du lac de Galilée, autour de la mer de Tibériade, plusieurs villes dont les noms sonnent aux oreilles de qui a l'habitude de lire ou d'entendre proclamer l'Évangile.
Et oui, vous avez raison de le souligner, vous avez ces lieux très connus dans les évangiles, comme Capharnaüm, ou comme l'expression, on emploie souvent cette expression, quel Capharnaüm, quel bazar. Et de fait, c'était une ville à l'est de l'embouchure du Jourdain, un peu temps après, en fait, très peu de temps après les sources, hein, eh bien, le Jourdain se jette dans ce lac de Tibériade et on est à l'est. Là, vous avez cette ville qui était une ville frontière en réalité qui permettait de contrôler le passage de la Palestine vers l'autre partie d'un royaume tétrarque, hein, puisque vous aviez quatre rois qui se, un peu fantoches, il faut le dire, à l'époque du Christ, qui se partageaient ces territoires. Et donc, Capharnaüm était cette ville frontière entre la partie ouest du Jourdain et la partie est. Hein, on pénétrait dans un autre royaume. Et donc c'est là, eh bien, qu'il y avait toute une ville active, une ville de passage, donc avec un péage, hein, où on payait des droits de douane pour les marchandises. Et vous aviez un certain Matthieu qui exerçait là et qui faisait qui contrôlait fiscalement toutes ces marchandises. Mais vous aviez également beaucoup de pêcheurs, hein, qui vivaient du lac, et c'était bien sûr le cas de Pierre et de son frère André. Qui vivait à Capharnaüm. Aujourd'hui, Capharnaüm est une ville qui est morte, hein, qui n'a pas survécu à travers les siècles, et qui est un site archéologique qui a été fouillé. C'est un très très bel endroit, on est vraiment les pieds dans le lac. On a retrouvé la synagogue où le Christ a enseigné, où le Christ a fait des miracles. Hein, vous savez, cet épisode où un paralytique n'arrivait pas à s'approcher du Christ, on va le faire passer par la toiture. Hein, on va enlever quelques tuiles et faire descendre le grabat. Et c'est là aussi, à un jet de pierre, véritablement, de cette synagogue que l'on a retrouvée, que l'on a vraiment mise au jour, eh bien, que se trouve la maison dite de Saint-Pierre. On a retrouvé l'endroit, c'est quand même très émouvant, on l'a retrouvé avec certitude parce que eh bien, il y a la force de la tradition, de cette transmission orale qui nous a été transmise à travers les siècles. Mais c'est là aussi où l'on a trouvé eh bien, des graffitis des premiers pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte avec la mention justement de la maison de Pierre. Hein, et on voit que la tradition orale s'était transmise dès les premiers siècles, dès le premier siècle après Jésus-Christ jusqu'au 3e, 4e siècle, lorsque les pèlerins vont commencer à affluer d'Occident, notamment comme Sainte-Hélène, vers la Terre Sainte.
Alors, il y a Capharnaüm, il y a Magdala, il y a Tibériade, il y a Tabqa, beaucoup de villes et de noms qui parlent à nos auditeurs.
Oui, alors ce qui est très beau, si les auditeurs ont un jour la grâce d'aller en Terre Sainte, et de prendre le temps d'y aller en marchant. Je m'entends, peut-être pas nécessairement faire tous les itinéraires à pied, ce serait compliqué. Néanmoins, de pouvoir marcher entre Nazareth et Tibériade, vraiment de mettre ses pas dans ceux du Christ, parce que combien de fois le Christ a fait cet itinéraire entre Nazareth et le lac de Tibériade, Nazareth où il était très mal reçu, hein, nul n'est prophète en son pays, ça s'était très très mal passé, mais néanmoins, eh bien, il faisait cet itinéraire très souvent. On a retrouvé donc la voie romaine, la Via Maris, on peut vraiment fouler les dalles de cette voie romaine. Moi, je l'ai fait, c'était une grâce immense. Ensuite, eh bien, cheminer par les camps de Hattine, hein, où il y a une fameuse célèbre bataille, trop célèbre, hein, la défaite des croisés en 1187 face à Saladin. Mais en tout cas, de Hattine, on redescend vers un plateau. Et de ce plateau, on peut accéder au mont Arbel, hein, qui est cité dans la Bible. Et de ce mont Arbel, on a une vue sur le lac de Tibériade absolument extraordinaire. Et c'était vraiment l'itinéraire emprunté par le Christ. Et au pied de ce mont Arbel, eh bien, vous avez cette dépression, puisque le lac de Tibériade est déjà un petit peu sous le niveau de la Méditerranée. Et l'on rejoint, eh bien, Magdala. Magdala, qui était un point de passage obligé au bord du lac, qui là encore est une ville qui n'existe plus. C'est un site archéologique qui a été mis au jour, qui a été fouillé et qui permet, eh bien, de Magdala de rejoindre ensuite l'étape suivante, c'est-à-dire Capharnaüm. Tout proche de Capharnaüm se trouve, eh bien, le mont est un petit peu au-dessus, hein, sur les hauteurs, le fameux mont des Béatitudes, qui sont le lieu du discours que le Christ a donné, hein, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pauvres, etc., qui est donné dans un cadre extraordinaire au-dessus de Capharnaüm, avec une vue absolument plongeante sur tout le lac et toute la région. Et en dessous, eh bien, se situe également le lieu où le Christ reviendra après sa résurrection pour confirmer Pierre comme étant le chef de son Église. On est toujours près du Jourdain, près de la source d'eau vive, la source de la grâce. Le Christ avait choisi de Pierre comme étant le chef de l'Église qu'il voulait fonder à la source du Jourdain à Bagnas, aujourd'hui, donc Césarée de Philippe.
Ça doit être un endroit dit encore plus difficile pour y aller parce que c'est le nord d'Israël, ça, c'est magnifique. Hein, on voit le mont Herbon, hein, c'est ça, tous les sommets du Liban depuis cet endroit qui est près de Césarée de Philippe, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'est tout à côté de Césarée de Philippe. Vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, déjà à l'époque, c'était compliqué d'y accéder. On longeait le No Man's Land, vraiment la frontière entre Israël et le Liban.
Oui, parce que la Syrie n'est pas loin. En plus, il y a le plateau du Golan qui est tout près. Oui.
On est au pied du mont Hermon et on est au pied du château d'eau, en fait, de la région. Donc, ce sont des endroits extrêmement stratégiques. Et c'est vrai que Israël, qui est bien envisage d'annexer purement et simplement, si on comprend bien les choses, le sud du Liban accède et annexe eh bien tout le château d'eau régional. C'est extrêmement, extrêmement stratégique. En tout cas, au pied de ce mont Hermon et au pied de eh bien jaillit le fameux Jourdain, et c'est là, Bagnas, Césarée de Philippe, que le Christ a choisi le Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Ce n'est pas rien. Pierre qui est cette figure extraordinaire, Pierre qui est le soir du jeudi saint, comme tous les autres disciples, eh bien, fuira, aura peur, laissera tomber littéralement son maître, mais s'en rapprochera quand même, ira voir de loin un petit peu ce qui se tramait du côté de chez Caïphe après l'arrestation de Jésus. Et il sera reconnu, on s'en souvient tous, on est dans la cour du grand prêtre Caïphe, il est reconnu par une servante qui lui dit « bah oui, toi aussi tu faisais partie des amis de Jésus, non, 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 je ne connais pas cet homme ». Et avant que le coq ne chante, eh bien, le grand Saint-Pierre avait trahi. Et donc, le lendemain de la résurrection, enfin, le jour de la résurrection, le Christ indique à Marie-Madeleine que ses disciples doivent se rendre en Galilée. C'est ce qu'ils feront. Et là, ils reprennent leur vie quotidienne d'avant. Et ils reprennent la pêche très tout naturellement. Et on voit le matin, un matin, eh bien, sur les rives du lac, à proximité de Capharnaüm, en bas du mont des Béatitudes, tout d'un coup, Saint-Pierre, qui se rapproche du rivage, croit apercevoir le Christ. Et dans sa fougue, parce que c'était quand même un sanguin, certainement, ce Saint-Pierre, il se jette à l'eau et il arrive, il voit effectivement, il voit que c'est bien son maître, c'est bien le Christ qui est là. Qui a fait d'ailleurs un brasero pour faire cuire le poisson. Et donc on voit le brasero auprès duquel la nuit du jeudi saint, Saint-Pierre essayait de se réchauffer parce qu'à Jérusalem il fait froid encore au printemps, on est à 1000 mètres d'altitude dans cette cour de Caïphe, il essayait de se réchauffer. Et vous voyez, on retrouve le brasero, et bien à Tabga, comme on l'appelle, sur cette rive du lac. Et évidemment, Saint-Pierre est heureux de voir son maître. Et celui-ci lui pose trois fois la question « M'aimes-tu ? » Pierre, m'aimes-tu ? Et Saint-Pierre répond « Bien sûr, je t'aime, Seigneur. » Et à la fin même, il s'en offusque. Mais il fallait que la trahison fut réparée complètement. Et c'est la confirmation à ce moment-là par le Christ que Saint-Pierre est bien le chef de l'Église. Il fallait qu'il y ait réparation et il fallait que Pierre soit confirmé malgré sa trahison. Voilà, c'est très très beau et c'est un endroit magnifique. Vous avez une petite chapelle là. On peut dire la messe tout autour sous des grands arbres avec cette vue sur le lac. On voit ces bateaux de pêcheurs encore aujourd'hui qui évoluent sur le lac et on s'imagine très bien, on se remet très très bien dans le contexte de l'époque. Vous voyez que les choses finalement ont très peu changé.
Alors, chers auditeurs, Vous écoutez Radio Courtoisie, les mardis de la mémoire, dans cette deuxième partie consacrée à l'itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints de Terre Sainte. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Magerand, guide conférencier, et nous marchons, pèlerinons, d'étape en étape à l'intérieur de ce pays, en essayant de suivre au mieux la chronologie des évangiles, mais vous voyez comme c'est difficile puisque nous sommes autour du lac de Tibériade, mais le Christ lui-même a beaucoup bougé. Vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment il est condamné, entre guillemets, à partir enseigner de l'autre côté du Jourdain, donc côté Jordanie. Là, il est monté du côté de Césarée-Philippe, plein nord du pays, et il fait des allées et venues réguliers autour de ce lac. Donc, vous nous avez parlé du mont de la Transfiguration, du mont des Béatitudes, vous nous avez parlé de Capharnaüm, de Magdala. Donc le nom de ce lac vient de la ville de Tibériade, qui à l'époque du Christ est une ville en pleine construction, hein.
Oui, absolument. On est sous Tibère. et vous avez cette ville qui est en cours de construction, comme Séphoris d'ailleurs, on l'avait évoqué l'autre jour. On voit la marque aussi à l'époque et bien de l'Empire romain qui n'a pas complètement annexé les lieux, mais qui se retranche derrière un roi complètement fantoche, hein. Mais en tout cas, vous avez ces villes qui sont en cours de construction, et ce lieu a été construit non pas par Rome, mais en l'honneur de Tibère. En tout cas, aujourd'hui, c'est une ville extrêmement moderne qui a laissé son nom en tout cas au lac. À l'époque du Christ, on ne parlait pas du lac de Tibériade, mais bien de la mer de Galilée.
Oui, bien sûr, oui. Mais en tout cas, on prend souvent le bateau à Tibériade pour aller faire donc une petite excursion sur ce lac, sur cette mer. Et c'est un endroit qui est ponctué de kibboutz, hein. C'est un lieu Enfin, c'est toute une époque là aussi que l'on voit, tout la création de l'État d'Israël, la création de cette reprise en main d'Israël par les sionistes, qui d'ailleurs nous permet un petit peu mieux de comprendre ce qu'étaient l'endroit des attaques du 7 octobre. Hein. On n'était pas au même endroit, puisque là on était plein sud du côté de la mer Morte, mais autour de la mer de Galilée, on a des choses semblables.
Oui, alors c'est vrai que c'est très différent parce que ce n'est pas désertique, contrairement au sud d'Israël. Là, on est dans une région qui ressemble peu ou prou à tout ce qu'on trouve autour de la Méditerranée. Ce sont des zones très calcaires, mais entrecoupées de plaines extrêmement fertiles. Hein, c'est le cas de la plaine de Jézéréel, par exemple, au pied de Nazareth, là où se trouve le site antique de Megiddo, Armageddon. Donc c'est extrêmement fertile, des petites plaines, mais très fertiles. Et autour du lac, évidemment, c'est très fertile aussi, puisque ce sont d'anciennes zones volcaniques. Et il suffit d'ailleurs de regarder, en se promenant entre Nazareth et le lac de Tibériade, eh bien vous avez un ancien cône volcanique comme ça. Il s'agit du mont Tabor, hein, qui n'est pas très haut du reste. Hein, on a l'impression, quand on parle l'évangile, que c'est une montagne extrêmement élevée. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, elle a une forme très conique, une forme volcanique très, très nette. On n'est pas loin non plus du fameux plateau du Golan, hein, et qui est une zone volcanique aussi, le plateau du Golan, qui est le prolongement sud de la Syrie, où vous avez des sites archéologiques majeurs comme le théâtre de... Ah, pardon, j'ai un trou. Bon, un théâtre au sud de la Syrie qui est construit en pierre de lave, qui est tout noir, hein, qui est très bien conservé, mais qui est absolument noir à cause de cette pierre volcanique. Donc, une région très, très riche, très, très fertile, avec notamment... Eh bien, beaucoup de cultures déjà dans l'Antiquité. C'est beaucoup plus fertile que les monts de Samarie, hein, qui sont beaucoup plus désertiques, et que les monts de Judée, hein, un peu plus au sud, là encore, où de fait, la vie est moins facile. Mmh.
Alors, on a peu parlé de l'architecture du 19e siècle, mais c'est parce que vous parliez du Mont Tabor et donc du lieu qui commémore l'épisode de la transfiguration du Christ. Tous ces lieux, que ce soit Bethléem, donc le Mont Tabor, le lieu des béatitudes, Ain Karim, c'est plein de constructions de basiliques, d'églises qui sont souvent très belles et qui sont des constructions très tardives de la fin du 19e ou même parfois de la première moitié du 20e siècle, souvent vers 1920-1930. Et on a construit à cette époque des églises qui sont assez réussies.
Oui, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner, par exemple au mont de la Transfiguration, au mont Tabor. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la troisième année de la vie publique du Christ qui débute par la Transfiguration. Jésus se rend ensuite à Capharnaüm, mais vous voyez, c'est vraiment le pendant, la Transfiguration, c'est vraiment la manifestation de la divinité du Christ à ceux qui sont présents, ils sont simplement trois, et qui préfigurent la mort et la résurrection du Christ, et là encore toute sa divinité. Hein, c'est très intéressant. Tout cela n'est pas, il n'y a pas de hasard, bien sûr, tout cela a été voulu de toute éternité par Dieu. Et oui, de fait, vous avez ces églises qui ont été construites, celle du Mont Tabor, me semble-t-il, c'est la toute fin ou tout début 20e siècle, toute fin 19e, début 20e, qui est assez réussie avec de très belles mosaïques qui représentent justement la transfiguration, qui essayent de représenter la transfiguration avec des mosaïques sur fond doré. Et c'est très beau, c'est assez réussi, c'est assez grandiose aussi parce que c'est une grande basilique en haut de cette colline. Et d'ailleurs, on domine toute la plaine de Jézéréel, on voit le lac de Tibériade, le plateau du Golan, etc. C'est un très très bel endroit. Comme basilique plus récente, vous avez celle des Nations à Jérusalem, cette basilique qui englobe, qui coiffe le lieu de l'agonie du Christ à Jérusalem, au pied du Mont des Oliviers, au-dessus de la vallée du Cédron. Et vous avez une basilique récente aussi et très belle au Mont Sillon, c'est la fameuse Saint-Pierre en Galicante, eh bien, qui recouvre l'endroit du palais de Caïphe où le Christ a été souffleté, a été malmené, maltraité toute la nuit et ensuite jeté dans un cachot que l'on a retrouvé, hein, qui est très 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 prenant, un endroit vraiment extraordinaire où on peut lire d'ailleurs en s'y rendant eh bien, le fameux psaume 87 qui marque vraiment tout le désespoir. Le psalmiste avait déjà pressenti eh bien, tout ce que le Christ allait souffrir, notamment cette nuit entre le jeudi et le vendredi saint, dans le cachot, dans la maison de Caïphe.
Alors, chers auditeurs, je vais vous proposer un nouvel extrait d'un Stabat Mater, celui de Vorak, qui est donc une nouvelle illustration du Stabat Mater. reprenons notre itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints de Terre Sainte avec Sophie Magerand, guide de conférencier. Et nous allons maintenant, chère Sophie, après la vie publique du Christ, commencer à nous rendre vers Jérusalem et effectivement retrouver deux villes dont nous avons déjà un peu parlé lors de la première émission en évoquant l'impossibilité pour le patriarche latin de Jérusalem de célébrer le dimanche des rameaux comme ils le font généralement, deux villes qui sont Béthanie et Bethphagée et qui sont donc le point de départ de l'itinéraire vers Jérusalem, même s'il faudra y retourner dans quelques temps, puisque c'est aussi le lieu de l'ascension du Christ. Mais donc là, on est à l'est de Jérusalem, on regarde vers le temple et vers l'enceinte du temple, et donc le Christ rentre là en gloire pendant un bref instant.
Oui, alors c'est vrai que les derniers mois de la vie du Christ sont vraiment très bien documentés, très bien connus, très bien décrits dans les évangiles. Le Christ, après la transfiguration, va se rendre à Capharnaüm et puis finalement se rendra en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Hein, ça, c'est très bien documenté. Et c'est à ce moment-là qu'il déclara qu'il était la fontaine d'eau vive qui désaltère les âmes et il annonce sa mort prochaine. Et donc, cette fête des tabernacles, si vous voulez, c'est en octobre. Hein. Et le mois suivant, ou en tout cas en décembre, il va revenir à Jérusalem pour y célébrer en hiver la fête de l'anniversaire de la dédicace du temple. Et à ce moment-là, les Juifs vont vouloir le lapider. Parce que le Christ indique qu'il ne fait qu'un avec le Père Céleste. Et ça, c'est un motif inacceptable pour les Juifs. N'était-ce pas un blasphémateur que celui qui prétendait être ne faire qu'un avec le Père Céleste? Et donc, c'est à ce moment-là que le Christ va devoir fuir Jérusalem. On est en décembre et pendant jusqu'à Pâques, il ne remettra pas les pieds à Jérusalem. Entre décembre et avril, si vous voulez, on suppose que c'est au mois d'avril que la Pâque juive cette année-là. Et donc, le Christ ne remettra pas les pieds à Jérusalem. Il va devoir se réfugier en Pérée de Jérusalem. Il va descendre par les monts de Judée, par cette route de Jérusalem à Jéricho qu'il a tant emprunté, passer le Jourdain et passer pendant ces derniers mois de vie terrestre à enseigner toutes les populations de Pérée et à enseigner de très très nombreuses paraboles. Donc on est en Jordanie. Et de Pérée, c'est à ce moment-là, peu de temps avant la mort, avant le Vendredi Saint, disons, le Christ va être appelé à Béthanie, où il va ressusciter Lazare. Hein, on est à ce moment-là. Il est appelé à Béthanie, il arrive trop tard. Hein. C'est la résurrection de Lazare. Hein, c'est encore là une preuve immense de sa divinité. Et les Juifs vont se résoudre là vraiment à le faire mourir coûte que coûte. Alors, il va de nouveau réussir depuis Béthanie, là où se trouve Lazare, qui est à vol d'oiseau à peine à 3 km du temple de Jérusalem. Hein, c'est tout proche, vraiment tout proche. Et il va le Christ va quitter Béthanie, remonter un petit peu au nord en Samarie, à Éphrem. Éphrem qui correspond aujourd'hui au village de Taïbé, qui est l'un des seuls villages 100% chrétiens de Cisjordanie. C'est un village qui a conservé une population absolument chrétienne. C'est ce village de Taïbé qui correspond à Éphrem. Et vraiment, c'est les lieux des dernières semaines, des derniers jours du Christ. Et 6 jours avant la Pâque, nous disent les textes, le Christ va revenir à Béthanie. À Béthanie, toute proche de Jérusalem. Beth, en langue sémitique, ça signifie la maison. Et Béthanie, ça signifie la maison de la douleur, figurez-vous, hein, la bien nommée. Alors, 6 jours avant la Pâque, il revient à Béthanie, chez Simon le lépreux, et c'est là où Marie-Madeleine, hein, va prendre, c'était l'évangile là, d'avant Pâques, Marie-Madeleine va verser un nard, un parfum de très grand prix, en très grande quantité, sur les pieds du Christ et essuyer ses mêmes pieds avec donc ses cheveux. Marie-Madeleine qui fera scandale à ce moment-là, et notamment eh bien Judas Iscariote qui tenait les bourses, les cordons de la bourse de la communauté, si l'on veut, eh bien reprochera à Marie-Madeleine d'avoir utilisé autant d'argent pour un tel parfum alors qu'on aurait pu l'utiliser pour des pauvres, dit-il. Et le Christ dit, les pauvres, vous les aurez encore, moi, vous ne m'aurez plus. Hein, il annonce vraiment sa mort prochaine. Le lendemain de Béthanie, le Christ rejoint le mont des Oliviers, à peine à 1,5 km, 2 km, c'est en montée de Béthanie, on monte vers le mont des Oliviers, qui fait vraiment la séparation avec Jérusalem, si vous voulez. C'est assez désertique, ce sont les monts de Judée, là, c'est très très désertique. Dès qu'on arrive en haut du mont des Oliviers, tout de suite, la verdure est là, on regarde vers l'ouest, et c'est beaucoup plus verdoyant, Jérusalem est beaucoup plus verdoyante, et à Bethphagé, c'est là où il pourra monter sur cet anon et ensuite entrer triomphalement dans Jérusalem. De Bethphagé, il va redescendre vers aujourd'hui ce qu'on appelle le Carmel du Pater. C'est là, à cet endroit-là, qu'il avait enseigné face au temple de Jérusalem, en haut du mont des Oliviers, encore le Notre Père, cette prière que nous, chrétiens, nous récitons chaque jour, et à chaque messe d'ailleurs. Et du Carmel du Pater, ils vont descendre, franchir la vallée du Cédron, qui marque vraiment le fossé entre ce mont des Oliviers et la ville de Jérusalem. Donc on descend, on franchit le Cédron et on entre dans la ville sainte par la porte aux Lions, qui ensuite s'appellera la porte Saint-Étienne, et pour entrer dans Jérusalem. On entre par le côté nord du temple, de l'édifice du temple, ce temple qui se dresse sur le long côté au-dessus du Cédron. Vous avez encore aujourd'hui les restes des remparts de l'époque biblique, de l'époque d'Hérode, puisque ce temple avait été construit sous Salomon, on s'en souvient, détruit sous Nabucodonosor au 6e siècle avant Jésus-Christ et reconstruit simplement peu de temps à l'époque du Christ, en réalité sous Hérode le Grand, ce temple immense avec une esplanade immense, différentes cours, notamment la cour des gentils, la cour qui était accessible aux non-juifs, où le Christ, d'ailleurs, peu de temps avant sa mort, prendra le temps de leur parler. C'est cette entrée triomphale vraiment du Christ dans Jérusalem. Hosanna au fils de David, on connaît ces paroles. Le soir même, il retournera à Béthanie avant le lundi. De se rendre à nouveau à Jérusalem.
Alors, chère Sophie, on va s'interrompre une petite minute et demie, comme on l'a fait depuis le début de cette émission, pour proposer à nos auditeurs un nouvel extrait du Stabat Mater. Nous laissons le Christ dans sa courte période glorieuse après les rameaux, et nous allons le retrouver dans cette semaine sainte version douloureuse. Nous allons, pour nos auditeurs, leur proposer cet itinéraire spirituel et historique, non plus à l'intérieur des lieux saints en général, mais vraiment à l'intérieur de Jérusalem. Et je vous propose, chers auditeurs, un Stabat Mater, cette fois-ci de Reinberger, qui est une illustration par un grand compositeur du Stabat Mater.
vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, nous reprenons notre conversation avec Sophie Magerand, guide conférencier. Nous avons emprunté cette porte des Lions, porte Saint-Étienne. Peut-être une petite incidente qui concerne davantage des questions politiques ou géopolitiques, mais lorsque l'on rentre par cette porte, on est juste à côté d'une église, l'église Sainte-Anne, qui est un lieu français, hein, le drapeau français est hissé, il y a d'autres, quelques autres lieux à Jérusalem, mais il y a cette église Sainte-Anne, et c'est un lieu d'abord très beau, le lieu des piscines probatiques, un épisode dans la vie évidemment du Christ et dans les évangiles, mais si j'en parle, c'est parce que c'est un lieu qui est souvent connu à la télévision française parce que c'est un lieu où il y a souvent des échauffourées. Les présidents ou premiers ministres français ont toujours voulu s'y rendre et parfois mal accueillis. On se souvient de Lionel Jospin, de Jacques Chirac qui ont eu des épisodes très tendus à cet endroit. Et puis Sophie, comme vous connaissez bien la Terre Sainte et comme vous connaissez bien Jérusalem, vous aviez réussi une année en face de l'église Sainte-Anne à nous faire monter moyennant un petit bakchiche là dans une école qui a des fenêtres qui donnent sur l'esplanade du temple et on avait pu voir au travers de fenêtres grillagées un endroit de l'esplanade à une époque où elle était fermée parce que là aussi pas toujours facile d'y accéder. Moi m'endormais 5 pèlerinages en Terre Sainte, je n'ai pu monter vraiment sur l'esplanade du temple qu'une seule fois.
Et oui, c'est toujours très très compliqué d'y accéder sur cette esplanade, lieu de tension extrême. On se souvient des deux intifadas au début des années 2000 qui avaient débuté sur l'esplanade du temple. C'est cette esplanade qui est contrôlée par Israël, mais encore sous autorité religieuse musulmane avec le Waqf. Et Israël qui cherche par tous les moyens à s'y implanter, à laisser des juifs s'y rendre, et à chaque fois c'est source de tension extrême et ça n'est pas possible. Donc vous voyez comme c'est complexe, et c'est vrai que les non-juifs ou non-musulmans, donc les chrétiens qui veulent s'y rendre, c'est compliqué pour eux aussi. Vous avez toute une série de passages de contrôle où on n'a pas le droit d'avoir sur soi ni une médaille religieuse, une médaille ou un chapelet dans sa poche, c'est vraiment, ni un missel dans son sac. Donc c'est quand même très très compliqué. Et puis parfois, pour des raisons de sécurité, c'est purement et simplement interdit. On ne peut pas s'y rendre non plus le vendredi, qui est le jour de la prière. Vous avez une population extraordinaire qui ensuite bien défile et sort par la porte Saint-Étienne dont on parlait tout à l'heure. Voilà, vous avez cet enchevêtrement, tout est entremêlé. C'est très très complexe. Il faut faire quand même, faut savoir un petit peu où on se rend, à quel endroit où l'on va. Et c'est vrai qu'à côté de Sainte-Anne, eh bien vous avez cette école qui est sise aujourd'hui à l'emplacement certainement de la forteresse Antonine, là où a été condamné le Christ par Pilate. Hein. Dans un premier temps, ce sont les autorités juives qui vont arrêter Jésus le soir du Jeudi Saint, après son agonie, au pied du Mont des Oliviers. Il sera amené, accompagné par une force armée, mais si vous voulez, ce sont des gardes de la faction juive, du grand prêtre. Ils vont traverser le Cédron, et là, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en 2026, vous avez des tombes qui étaient déjà là à l'époque du Christ et qui ont vu passer le Christ une fois arrêté, avec des flambeaux, et encore je ne sais pas si ça a eu lieu cette année, mais en tout cas, chaque soir, chaque Jeudi Saint, le soir de la nuit de l'arrestation du Christ, vous avez une procession de la part de ces chrétiens qui part de la Basilique des Nations, du lieu de l'arrestation de Jésus, qui traverse le Cédron et remonte vers le Mont Sion, vers le lieu où se situe le palais de Caïphe, sous Saint-Pierre en Galicante.
Pardon Sophie de vous interrompre, les plus touristiques. Je me souviens de la première fois où j'étais allée, où au-dessus de cette basilique des Nations. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la basilique du Pater et qui présente en mosaïque les patères dans toutes les langues. Et on a toujours coutume de dire qu'il manque une langue, c'est celle du klaxon, parce que c'est un concert de klaxon, de cars qui ne peuvent pas passer dans des rues sinueuses et extrêmement étroites. Donc c'est vraiment, il faut aborder cet itinéraire spirituel historique avec beaucoup d'abnégation et se dire que bon, c'est une épreuve tout de même. Hein, et...
Oui, alors ceci étant, en ce moment même, il n'y a plus tous ces concerts, tous ces klaxons, tous ces touristes, tous ces pèlerins, tous ces groupes. Parce que il n'y a plus d'accès véritable depuis maintenant 4 ans et plus au lieu saint. Ce serait l'occasion de s'y rendre, mais malheureusement Jérusalem, là depuis le début de la guerre, depuis le début de l'offensive américaine en Iran, eh bien ne permet plus aux non-résidents israélien de se rendre à Jérusalem. Hein, Jérusalem n'est même plus accessible. On pourrait très bien prendre un billet d'avion et se rendre à Tel Aviv, mais on n'aurait pas accès à Jérusalem. Bon. Espérons que les choses changent. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi saint, donc voilà, tout peut changer finalement assez vite. Mais il est vrai que vous avez raison de le souligner, en temps normal, vous avez une foule immense. Et ce qui est beau d'ailleurs, de voir tous ces pèlerins des quatre coins du monde qui viennent en pèlerinage, c'est quand même très touchant. 2000 ans après tous ces événements, c'est formidable, c'est beau.
Alors, chère Sophie Magerand, guide conférencier, nous allons aborder dans les 10 minutes qui nous restent... On va suivre la Via Dolorosa, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour aborder les différents endroits. Nous allons proposer aux auditeurs un dernier extrait d'un Stabat Mater, c'est celui de Scarlatti. J'ai choisi le Amen, qui est donc évidemment la fin du Stabat Mater de Scarlatti, magnifique interprétation du Stabat Mater. Alors Sophie Magerand, vous nous l'avez dit, on démarre le chemin de croix lors du lieu de la condamnation. Jésus est condamné à mort. On va dire, c'est parti. Hein.
Oui, alors c'est vrai que le Christ a été malmené toute cette entre le soir du jeudi saint et le vendredi matin au moment de sa condamnation devant Pilate. On va déjà l'emmener chez Caïphe et puis chez Anne, son beau-père, mais qui n'a aucune autorité pour le condamner. Et il est de retour chez Caïphe, mais Caïphe qui réunit le grand conseil de nuit, ce qui était absolument interdit par les lois de l'époque. Donc on est complètement en dehors de la législation juive en tout cas, et le lendemain de toute manière ils ne peuvent pas déclarer la mort du Christ sans passer par les autorités qui contrôlent la région, c'est-à-dire les autorités romaines. Pour la Pâque juive, les autorités romaines et le gouverneur lui-même, c'est-à-dire Pilate, étaient présents à Jérusalem. Habituellement, le gouverneur n'avait pas sa résidence à Jérusalem. Sa résidence se trouvait sur la Méditerranée, à Césarée
Maritime.
Merci, qui est un lieu archéologique extraordinaire au sud d'Haïfa. C'était plus près pour les échanges, évidemment, avec Rome. Et puis, c'était loin de Jérusalem, qui était toujours une ville très compliquée, toujours prête à la révolte. Et vous voyez que les choses, finalement, n'ont pas changé. Et donc, en revanche, pour les jours saints, pour la Pâque juive, eh bien, comme il y avait toujours des mouvements de foule, il y avait toutes ces caravanes qui convergeaient vers Jérusalem, il y avait une cohorte et le gouverneur lui-même qui venait faire, si vous voulez, un petit peu la police, et la sécurité, et assurer la sécurité.
Oui, puis donc, on est dans, quand même, pardon de vous interrompre Sophie, mais on est dans les années 30, après la naissance du Christ, et on est dans une période qui ne va faire que s'accroître jusqu'en 70, une période de révolte juive et d'instabilité de le contrôle romain et de la présence romaine. Hein. On sait bien que Pilate sait que c'est lui ou le Christ, hein, sa place, et c'est d'ailleurs Barabbas, le fameux Barabbas qui va être libéré, est un chef d'une sédition juive qui s'est révoltée et qui a fait des troubles quelques mois ou années auparavant.
Oui, vous faites bien de le souligner. De fait, déjà aussi, dans la population juive, vous n'avez pas une seule religion. Vous avez différents courants, les courants pharisiens, les courants sadducéens, etc., etc. Donc, en fait, il n'y a au plus d'unité. L'unité qui peut se faire, éventuellement, c'est contre, effectivement, la présence romaine. Et on le verra, effectivement, de peu de temps après la mort du Christ, cette révolte juive qui se terminera eh bien, par la destruction pure et simple du Temple de Jérusalem, par la destruction de la religion juive. Depuis 70, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Ce temple n'a jamais été reconstruit et les juifs ont perdu leur religion, c'est-à-dire l'acte de faire religion, de rendre un culte à Dieu qui se faisait exclusivement à Jérusalem, sur l'endroit du sacrifice d'Isaac par Abraham qui avait été prêt à sacrifier son fils, qui est ce lieu qui se trouve actuellement sous le dôme du rocher. Donc un lieu très très important, bien sûr. Et donc, le Christ est condamné. Il est condamné, il ne dit rien d'ailleurs, il est dans ce mutisme parce qu'il voit bien que ça ne sert à rien de se justifier, hein, et vous avez cette parole extraordinaire d'ailleurs de Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Ce sont des questions qu'on peut encore aujourd'hui se poser, mais Pilate préférera, pour avoir la paix, et il s'en lavera les mains, et bien condamner un innocent, il sait que le Christ est innocent, et livrer en revanche Barabbas à cette foule surexcitée, il ne sait pas comment s'y prendre pour les calmer en réalité. Et c'est parti, à ce moment-là, et bien le Christ va être flagellé, et puis ensuite présenté, hein, Ecce Homo, voici l'homme, et encore aujourd'hui, et bien vous avez la basilique de l'Ecce Homo, sur cette Via Dolorosa, c'est là où l'on commence le chemin de croix lorsque les pèlerins se rendent en Terre Sainte à Jérusalem. On est tout à côté de Sainte-Anne, là encore, dans cette voie eh bien, qui passe, donc qui entre par la partie est, par la porte de Saint-Étienne. On remonte vers Sainte-Anne, vers l'Ecce Homo, et on continue et on prend ce fameux itinéraire de la Via Dolorosa jusqu'au Saint-Sépulcre. Alors, en réalité, la première fois qu'on se rend à Jérusalem, on est très surpris de voir à quel point l'itinéraire est très court. Cela fait moins de 400 mètres, c'est extrêmement court. Ce qui est très perturbant, c'est que les murs d'enceinte ont complètement changé. Effectivement, par rapport à l'Antiquité et à l'époque de ces événements, de fait, la ville de Jérusalem englobait à l'intérieur de ses murs eh bien, toute la partie sud de la ville avec le mont Sion qui aujourd'hui se trouve à l'extérieur des murs. Et en revanche, toute la partie ouest de la ville n'était pas englobée alors qu'aujourd'hui, on est à l'intérieur des murs de la ville. Et donc, le Christ eh bien, va tomber plusieurs fois. Vous avez les stations qui sont indiquées. Alors, il y a des querelles de savants, d'historiens et d'archéologues qui disent « Oui, mais la ville a été détruite maintes et maintes fois », ce qui est vrai. Hein. La ville n'a plus du tout la configuration, on vient de le dire, de l'époque. Néanmoins, je crois que la force de la transmission orale s'est faite à travers les siècles. On peut compter dessus. Hein. Il n'y a pas de raison. Et puis, de toute façon, si on a 50 mètres à droite ou 50 mètres à gauche, peu importe non plus, parce que le Christ a tellement sillonné Jérusalem que de toute manière, il est passé tout proche. Et on passe et on remonte, parce qu'il faut savoir eh bien, que Jérusalem est en déclivité assez prononcée de l'Est, eh bien, on monte vers l'Ouest. Et on monte et on sort, le Christ va sortir des remparts, va sortir de la ville. Et on a conservé d'ailleurs, et c'est un lieu orthodoxe, l'endroit de la porte hein, que le Christ a franchi avec le chat, c'est-à-dire la toute petite porte réservée aux retardataires le soir pour entrer ou pour sortir de Jérusalem sans que les grandes portes soient ouvertes et où effectivement eh bien, les dromadaires ou les chameaux ne pouvaient pas passer. Hein. Les marchandises restaient à l'extérieur pour ceux qui étaient en retard. En tout cas, le Christ va sortir. Et là, tout proche des remparts, eh bien, vous aviez une ancienne carrière de pierre transformée en jardin avec quelques tombes, d'ailleurs creusées dans la roche, que Joseph d'Arimathie s'était fait aménager, un tombeau, un sépulcre. Et au-dessus, eh bien, vous avez un édicule, une sorte de petite colline, de petits rochers, parce que c'est extrêmement calcaire là aussi, eh bien, où les condamnés à mort au pied de la muraille étaient crucifiés. Et donc, vous voyez que dans l'imaginaire collectif, et puis c'est vrai que toute la peinture, toutes les iconographies occidentales ont toujours représenté le Golgotha comme étant très loin et très éloigné de la ville de Jérusalem, ce n'était pas le cas. Et donc, aujourd'hui, le Saint-Sépulcre, qui englobe à la fois le lieu du Golgotha et le lieu de la résurrection, se trouve à l'intérieur des murs de la ville, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, à l'époque de la mort de notre Seigneur, hein, du Christ.
On a 14 stations qui se terminent pour plusieurs d'entre elles à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre.
Oui, alors c'est très beau parce que il faudrait que l'on puisse, mais j'invite les auditeurs à se rendre sur Internet, à faire des recherches, à voir un petit peu la configuration des lieux et surtout les restitutions à partir du moment où la ville sera reconstruite. La ville va être rasée hein, et le temple de Jérusalem détruit en 70 après Jésus-Christ, mais au siècle suivant, sous Antonin, sous Adrien, puis Antonin reconstruira la ville à l'emplacement du Saint-Sépulcre. D'ailleurs, on comblera absolument toute la dépression, et on y installera un temple païen. Hein, et tout cela sera dégagé au moment du triomphe du christianisme, au IVe siècle après Jésus-Christ, après l'édit de Milan. Et sainte Hélène, la mère de Constantin, qui sera l'auteur de cet édit de Milan, qui reconnaît la religion chrétienne comme autorisée, licite, eh bien, viendra à Jérusalem, fera détruire le temple païen, retrouvera le lieu du Golgotha, retrouvera les croix et fera construire eh bien, une église, la première église du Saint-Sépulcre, dont l'entrée donnait sur la Via Recta, la grande voie droite qui traversait Jérusalem du nord au sud, et qui se trouvait en plein milieu, si vous voulez, de la ville du IVe siècle. Cette grande basilique, au fond de laquelle, au chevet, se trouvait une cour. À l'ouest, dans l'angle sud-ouest, sud-ouest de cette cour, eh bien, se trouvait le lieu du Golgotha qui était englobé à l'intérieur de la cour. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, le lieu du Golgotha n'est pas dans l'axe principal de l'église. Ce qui est dans l'axe principal de l'église, au-delà de cette cour, cet atrium, au chevet donc de la basilique constantinienne, eh bien, se trouve l'anastasie, c'est-à-dire la grande rotonde qui englobe et coiffe le lieu de la résurrection. On voit bien que déjà pour les premiers chrétiens, ce n'est pas tant le lieu de la crucifixion qui est le plus important, c'est le lieu de la résurrection. Nous avons été rachetés, mais nous avons, par la mort hein, du Christ, le Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection le matin de Pâques.
Merci chère Sophie Majeran, bravo, vous terminez pile comme il faut. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Nous vous avons proposé un itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints avec Sophie Majeran, guide conférencier. Je vous laisse en compagnie des petits chanteurs à la croix de bois qui vont vous interpréter un Laudate Dominum. Merci, à mardi prochain.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la mémoire, dirigés par Anne Collin, émission préenregistrée le 31 mars 2026 et diffusée pour la première fois mardi 14 avril 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.